Alors, on va voir pas mal de choses là. D'abord, verset 27, le publicain. Qu'est-ce qu'un publicain? Alors, il est écrit à côté, hein, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, mais on va essayer d'en dire un petit peu plus. Le publicain, c'est un juif qui travaille pour l'Empire romain à la levée de diverses taxes. Donc, par exemple, le passage d'un pont, d'une frontière, le transport de marchandises, le transport d'esclaves. Et donc ça, c'est un impôt, disons indirect, qui est dû soit à César pour les habitants de la Judée, soit à Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, pour ceux qui vivent en Galilée. Donc autant dire que la réputation des publicains auprès des autres juifs, elle est très mauvaise. Parce que non seulement ils sont considérés comme des collaborateurs, mais en plus, ils sont perçus comme des voleurs parce qu'ils avaient le droit d'ajouter aux taxes une certaine part qui leur revenait, quoi. Un petit surplus. Ensuite, au verset 30, je voudrais revenir sur la phrase qui est au verset 30, du moins la question que posent les pharisiens et les scribes. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? En fait, les prescriptions rabbiniques défendaient à tout juif de partager le repas d'une personne impure, parce que partager le repas d'une personne impure, c'est devenir impur à son tour. Donc, c'est très... Aujourd'hui encore, hein, par exemple, chez les juifs ultra-orthodoxes, on peut devenir impur au contact d'une personne impure. Donc ça donne des scènes parfois un peu surréalistes. Quand mes parents sont venus me voir à Jérusalem, la petite anecdote du jour, quand mes parents sont venus me voir à Jérusalem, il y avait un trottoir qui était un peu étroit. Ma mère, elle marchait sur le trottoir, et il y a un juif ultra-orthodoxe qui est arrivé, et dès qu'il l'a vu, déjà il s'est caché les yeux, comme ça, pour ne pas voir une femme avec les cheveux découverts. Et puis, il l'a évité au... Comme elle n'était pas descendue du trottoir, il l'a évité au dernier moment, mais en l'esquivant pour ne surtout pas la toucher. Mais en même temps, en marchant d'un pas vite aussi, quand même pour manifester son mécontentement qu'on passe à côté de son quartier, quoi. Donc voilà, la question du pur et de l'impur, et donc du contact. Maintenant, la question du jeûne. Alors, les juifs qui sont pieux, il y a des jours de jeûne qui sont des jours obligatoires, hein, mais eux, ils ne se contentent pas des jours de jeûne obligatoires, ils en font plus. Et donc souvent, ils jeûnent soit pour expier une faute, soit pour accompagner un vœu, une prière, comme on le fait aussi nous aujourd'hui, hein. Et donc ça, ils faisaient assez régulièrement, et notamment les pharisiens, parce que les pharisiens, ils avaient l'habitude de jeûner régulièrement, et ils jeûnaient notamment pour le bien du peuple élu. Et dans notre texte, avec la question du jeûne, au verset 34, va la question des invités de la noce. Et en fait, littéralement, les invités de la noce, c'est une expression tout à fait sémite, qui veut dire les fils de la salle nuptiale. Donc ceux qu'on appelle les fils de la salle nuptiale, en fait, ce sont les amis proches de l'époux, et donc c'est ceux que l'époux a, en gros, lui-même invité et qui forment sa garde rapprochée, quoi, si on veut. Donc c'est intéressant pour nous, parce que si c'est la garde rapprochée de l'époux, si l'époux est le Christ, sa garde rapprochée, effectivement, c'est, à ce moment du récit, c'est ses disciples, et puis après, il y aura aussi l'élection des douze. Au verset 36, Jésus parle en parabole. C'est la première fois qu'on voit une parabole. Donc une parabole, ce n'est pas simplement une comparaison, une image ou une métaphore. C'est une manière de parler qui est quand même propre à Jésus, puisqu'elle permet de révéler les mystères de Dieu, mais d'une manière bien particulière. Donc il utilise de fait la comparaison, l'image, la métaphore, mais ça lui permet surtout de faire accéder un mystère de Dieu, mais sans lever le voile sur ce mystère-là. On n'est pas dans une explication du mystère, on est dans une approche, en fait, du mystère. Et donc chacun, là où il en est rendu, va aussi pouvoir s'approcher de ce mystère. Et c'est notamment pour ça qu'on voit des fois, même souvent, Jésus faire une parabole, et puis les apôtres viennent demander « mais qu'est-ce que ça signifie ?» Et Jésus répond « à vous je le dis, mais pas aux autres. » Parce que chacun est à un certain point de capacité d'accueil de la révélation. Donc ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça évolue. Et enfin, la dernière note, celle sur le vin. Le vin nouveau ferait éclater les autres. Je me suis souvent posé la question en me demandant comment c'était possible, parce que moi j'avais en tête, non pas en fait des outres, mais des jarres. Je pensais aux jarres, je ne sais pas si vous c'était pareil, mais en tout cas, moi pendant longtemps j'ai cru que c'était des jarres comme pour les Romains ou pour les Grecs, donc quelque chose qui me semblait difficilement pouvoir éclater. Et en fait, en cherchant un petit peu la question des outres, c'est quelque chose de complètement différent. Les outres, elles sont en cuir. Donc ça signifie que pour mettre un vin nouveau qui est un vin qui va continuer à fermenter, il faut que les outres soient neuves, parce que c'est-à-dire que le cuir est souple, et puis les coutures sont encore solides et résistantes. Donc il va pouvoir effectivement fermenter à l'intérieur. Si on met une vieille outre, de fait, ça explose, parce que le cuir n'a plus cette souplesse, et parce que les coutures sont usées. Donc c'est très pratique. Alors, trois propositions même de lecture sur ces versets. La première, elle concerne bien sûr Lévi, le collecteur d'impôts. Un homme que la bonne société juive ne devait pas fréquenter en raison de sa fonction, et donc, on l'a dit, de l'impureté qui l'habite. Et pourtant, Jésus voit les choses d'une manière tout à fait différente, puisque après avoir touché et guéri un lépreux, ce dont on a parlé dans le dernier passage, eh bien, ce qui n'est qu'un contact, on va dire, passager, il touche, après il enlève sa main, le contact est passager. En revanche, en faisant société avec Lévi, qui est un collecteur d'impôts et qui est donc touché par l'impureté, cette fois, ce n'est pas un simple contact. C'est-à-dire qu'il va rester dans sa compagnie. Donc, on est dans quelque chose de prolongé. Donc, ça nous parle. Ça vient nous dire quelque chose de Jésus. Parce que s'il s'affiche avec un publicain, alors bien sûr pour le repas aussi, hein, mais de manière continue, ça veut dire qu'en réalité, Jésus perçoit autre chose à nouveau que le péché ou que l'impureté. Tout le monde est aveuglé à ce moment-là par la dialectique entre le pur et l'impur. Mais ce que Jésus voit, puisqu'il voit au-delà du péché et qu'il voit la foi, eh bien, il voit surtout la disposition intérieure que Lévi a à entendre l'appel et à tout quitter pour le suivre. Donc on voit, je crois qu'on en a déjà parlé, souvent Dieu fait appel à ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Ben là c'est la même chose, c'est-à-dire que le Christ a vu en Lévi cette disposition à le suivre et à lui donner sa vie. Là où tous les autres ne voyaient qu'un homme impur. Donc quand Jésus dit, se désigne comme le médecin, hein, à un moment donné, là il dit, pour reprendre les termes exacts, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Jésus, c'est un vrai médecin en l'occurrence. Pourquoi ? Il ne s'arrête pas aux symptômes de la pureté, il va voir plus loin. Il se rend compte qu'en réalité, à la racine, c'est un homme juste et bon. La deuxième proposition de lecture, c'est « Faut-il jeûner ou festoyer ?» Parce qu'on a vu que les deux étaient en question. « Les disciples de Jean jeûnent, mais ceux de Jésus font bonne chère. » Comme embêtant. Les disciples de Jésus seraient-ils de peu de piété alors même que les pharisiens jeûnent régulièrement, alors que les disciples de Jean jeûnent régulièrement? Eh bien, Jésus va expliquer en des termes rabbiniques la raison du comportement de ses disciples. Dans le contexte juif du temps de Jésus, les juifs avaient le devoir de rompre le jeûne pour les jours de fête. Comme on le fait nous aussi. Pendant le carême, on est invité à jeûner sauf le dimanche ou les jours de fête. On a repris ça en fait. Et donc pour les juifs c'était pareil. Ils étaient invités à jeûner mais ils avaient l'obligation de rompre le jeûne les jours de fête. Or, un jour de noces, c'est un jour de fête. Pourquoi ? Parce que le jour de noces symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc c'est un rappel de l'alliance. Donc c'est un jour très important. Donc lorsque Jésus parle des noces, en l'occurrence, c'est pas anodin. Parce que l'incarnation du Christ, c'est véritablement la rencontre de Dieu avec son peuple. C'est l'accomplissement de l'alliance et c'est même l'établissement d'une alliance qui est nouvelle et éternelle. À nouveau, comme on le dit lorsqu'on reprend les paroles de l'institution pendant l'Eucharistie. Donc le temps des noces dure aussi longtemps que Jésus, qui est l'époux, est présent au milieu des hommes. Donc en présence de Jésus, il ne faut pas jeûner. C'est l'époux. Il faut festoyer. Et on voit bien comment est-ce que Jésus parle toujours de ce repas des noces, et notamment des noces éternelles. Et donc, la vie éternelle, ce n'est pas un temps de jeûne, c'est un temps de fête. Quand Jésus est présent, ça veut dire que le royaume de Dieu est présent parmi nous, donc c'est un temps de fête. Et on voit bien comment est-ce que, dans le récit, Luc précise que la question des outres de vin, ça c'est une parabole, mais pour la question de l'époux, c'est pas une parabole. On n'est pas dans une image en tant que telle, c'est une réalité. Et maintenant, la dernière proposition de lecture, celle qui concerne la fin justement de la péricope qu'on a lue, le vieux vêtement et le vêtement neuf, le vieux vin et le vin nouveau. Donc on voit bien que par sa parabole, Jésus est en train d'opposer une ancienne et une nouvelle pratique. Par un raisonnement qu'on va appeler à contrario, Jésus explique que si ce n'est pas au nouveau de se greffer sur l'ancien, eh bien c'est à l'ancien de se greffer sur le nouveau. Autrement dit, ce ne sont pas aux disciples de jeûner pour faire comme les pharisiens ou comme les disciples de Jean, ce sont aux disciples de Jean et aux pharisiens de se réjouir de la présence de Jésus, parce que c'est le Fils de Dieu, parce qu'il est au milieu d'eux, et donc le règne de Dieu est avec eux. Et dans le même sens, le vin, qui est une boisson de fête, une boisson comme le dit l'Écriture sainte, hein, qui réjouit le cœur de l'homme, eh bien, ça nécessite des outres qui sont des outres neuves. Donc ça signifie qu'il faut se convertir, devenir une outre neuve, afin de pouvoir accueillir le vin nouveau, la bonne nouvelle du Christ. Et le dernier verset, « Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit « c'est le vieux qui est bon ». En fait, ce n'est pas juste un conseil d'œnologue averti, c'est le fait que Jésus insiste sur l'idée qu'il faut sortir des habitudes pour pouvoir se convertir.